François Chevalier, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes stratégiste à la banque Leonardo. On va parler avec vous de marchés financiers, de perspectives sur ces marchés. Comment vous abordez cet automne? On parle déjà de l'hiver, mais cet automne sur les marchés financiers, on a l'impression que l'investisseur hésite un peu sur le chemin à suivre.
Oui, l'été a été plus facile. Voilà, l'été a été plus facile parce qu'on a suivi le feuilleton européen et le feuilleton des banques centrales, hein, qui a animé positivement les marchés. Mais tout ça s'est interrompu le 13 septembre. Alors, on a bien des signaux de fin de crise, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, mais la conjoncture reste extrêmement, elle est très morose des deux côtés de l'Atlantique. Et ça freine, évidemment. C'est difficile d'associer sur les marchés lorsqu'il n'y a pas de croissance. Donc, on est depuis 2 mois dans une incertitude sur le marché actions, mais je crois qu'il faut se féliciter qu'on n'a pas rechuté, on a plutôt consolidé que corrigé. Mais c'est difficile de savoir quand on sortira de cette forme de paralysie ou de neutralité sur les marchés actions.
Alors, on est en pleine saison de publication des résultats trimestriels, que ce soit aux États-Unis d'ailleurs ou en Europe. On voit là, on commence à sentir, pour certaines entreprises très internationales, l'effet de cette macroéconomie qui, effectivement, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, est loin d'être effectivement très, très. La croissance est loin d'être revenue.
Du ralentissement mondial, oui. Parce qu'effectivement, le ralentissement, enfin, finalement, la zone euro a réussi à exporter sa crise. On n'y croyait pas, mais ça s'est bien passé. Et en Chine, hein, je crois que l'Union européenne est le premier client de la Chine, mais aussi aux États-Unis. Donc on voit bien ce ralentissement mondial, et c'est vrai que ça a un impact sur les résultats des entreprises, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Hein, on n'est pas en récession. Globalement, le monde n'est pas en récession. Il reste, la croissance est faible, mais on n'est pas en récession.
Vous parliez d'amélioration. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est un des secteurs que l'on regarde depuis le début, origine de la crise sur l'immobilier. C'est vrai qu'on a, là, on commence à avoir, on va dire, mois après mois ou semaine après semaine, des chiffres qui ont l'air de montrer que sur cette partie immobilier, ça va un peu mieux. Est-ce que c'est suffisant pour les États-Unis?
Non, c'est pas suffisant, mais c'est vrai que. Alors, entre l'indice des promoteurs immobiliers et le NAHB qui retrouve ses niveaux de l'été 2006, mais même la confiance des ménages qui retrouve ses niveaux de l'été 2007. Les ménages se sont désendettés, les ménages américains sont désendettés. On a un service de la dette qui retrouve ses niveaux du début des années 90. Donc il y a vraiment des signaux extrêmement positifs, mais pour autant, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est le marché de l'emploi, qui est d'une faiblesse dramatique. Alors c'est vrai que l'emploi est reparti, c'est vrai que le taux de chômage baisse, mais c'est plus un traitement social du chômage. Mais on a, vous savez, Alan Greenspan avait un indicateur sur le marché de l'emploi qui était le pourcentage de personnes qui quittaient spontanément leur emploi. Et il continue d'être extrêmement faible, validant des taux réels aux États-Unis de moins 2%. Donc on a un marché de l'emploi extrêmement faible. Et puis le deuxième problème, c'est évidemment la falaise budgétaire. C'est vrai que la croissance est repartie aux États-Unis, on est sur un rythme de croissance de 2%, mais sur le déficit public, on n'a pas fait grand-chose. Il s'est réduit seulement de manière spontanée grâce à la croissance, mais on est passé de 10% à 7% du PIB, et on a une dette publique qui explose et qui atteint 102% du PIB. Alors vous savez que s'il n'y a pas accord entre les républicains et les démocrates d'ici la fin de l'année, ça risque d'être dramatique au 1er janvier. Donc il y a une incertitude, il y a un marché de l'emploi qui est faible et une énorme incertitude budgétaire.
Alors, on pourrait dire, si on revient un instant à l'Europe, que effectivement, vous parliez des banques centrales, que les banques centrales, la Banque centrale européenne notamment, a agi et a rassuré les investisseurs. Et puis, on voit malgré tout, alors là, on pourrait dire aussi chaque semaine, selon l'agenda politique, on voit le sujet grec, on voit le sujet, bien entendu, de l'Espagne. Donc, on voit régulièrement l'Europe encore en train d'avoir des sujets importants à régler.
Oui, et d'ailleurs, le premier sujet important à régler, c'est le taux de chômage espagnol, hein. 25% de la population active, suivi de près par le taux de chômage grec. Donc la situation n'est pas très claire. Les Grecs sont en train de demander une rallonge et l'Espagne n'a toujours pas sollicité l'aide européenne. Quoi qu'il en soit, et néanmoins, la convergence, parce qu'on a un certain nombre d'indicateurs sur la crise en Europe, et notamment les taux obligataires, la convergence des taux se poursuit. Et ce n'est pas le seul signal. On a aussi le franc suisse qui s'est légèrement affaibli. On a un spread interbancaire qui était tout de même symptomatique du risque de credit crunch qui a quasiment disparu. Donc on a vraiment en plein. Et puis, le dernier indicateur, c'est tout de même les banques. le redressement des banques. Alors, il n'est pas tellement évident en termes nominaux, mais si vous regardez en termes de valorisation, on a retrouvé des PE, hein, des price earning ratio sur les banques, inconnus depuis le premier semestre, depuis le premier semestre 2010, c'est-à-dire le début de la crise européenne. On a des PE qui sont de l'ordre de supérieur à 8, hein, alors que le plafond précédent était à 7. Donc, il y a un redressement des banques. Tout ça montre que malgré le fait que tout n'est pas réglé en Europe, malgré ça, les marchés continuent de croire à la fin de la crise européenne.
Donc on pourrait dire peut-être qu'ils ne sont pas dans un, même si ça avait été évoqué à un certain moment, dans le même risque ou l'évaluation de ce qui s'était passé en 2008, ils sont en train de se dire que finalement, il y a cette question macroéconomique, ces perspectives peut-être de récession, peut-être d'économie qui ralentit, mais pas de gros problèmes à l'horizon, pas de
Non,
nouveaux
non,
problèmes
tout à
importants.
fait. Et en tout cas, pas comme en 2008, lorsqu'il y a eu cette faillite de Lehman Brothers, où le monde entier est tombé en récession. Là, c'est pas sur l'agenda. Même une récession globalement en Europe. On vient d'avoir les indices des directeurs d'achat européens, ils ressortent autour de 46, ce qui fait grosso modo une croissance zéro pour la zone euro. Vous savez, le plus important, ce qui s'est passé cet été, le plus important, c'est que la BCE, finalement, a joué son rôle de prêteur, ou va jouer son rôle de prêteur en dernier ressort. C'est ça qui a mis fin à la crise européenne. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur cette fin de crise. Et je pense que la situation était tellement explosive, lorsqu'on regarde le niveau des taux italiens, où étaient les taux espagnols et italiens, la situation était tellement explosive qu'il fallait trouver une solution, sinon le système allait casser.
Est-ce que c'est suffisant, peut-être en conclusion, pour revenir justement sur ces marchés actions où on voit qu'il y a eu un peu de risque, puisque quand on regarde les volumes, hein, comme vous les regardez, on voit bien que c'est pas encore les grands investisseurs sont pas revenus sur ces marchés actions, donc ça bouge, mais pas forcément avec un mouvement de fond.
Non. Et je pense qu'il faudrait vraiment un signal positif du côté de la croissance, en fait, pour revenir avec enthousiasme. Il y a un potentiel, hein, même indépendamment de la croissance, il y a un potentiel sur les actions, parce que, en fait, surtout depuis la crise européenne, les actions ont été dévalorisées, hein, sous-valorisées. Hein, si vous prenez les actions européennes, elles se traitent en ce moment 10 fois les résultats futurs. Avant la crise européenne, c'était 12 fois et demi. Et c'est la même chose pour les actions américaines. Donc il y a vraiment une sous-valorisation des actions par rapport à leur valorisation d'avant la crise. Donc ça, c'est. Mais sans signaux positifs du côté de la croissance, c'est tout de même difficile d'imaginer qu'on ait une revalorisation des actions.
Peut-être le dernier mot sur, on a vu que les actions américaines et que les indices américains avaient, eux, nettement progressé au cours finalement de 2007-2012. Finalement, on a eu un rattrapage là, qu'on n'a pas eu en Europe, puisque, avec cette crise qu'on a évoquée. Alors, est-ce que le pari simple, c'est de dire que ça va être les actions européennes qui vont rattraper les actions américaines?
Ah non, je pense qu'elles sont strictement au même niveau. Les différentes évolutions que vous venez de signaler viennent essentiellement de la croissance et du consensus. En fait, ça reflète, je pense que ça y est, les actions européennes ont rattrapé leur retard par rapport aux États-Unis. Si elles restent en deçà, notamment en termes de valorisation, si elles restent en deçà, c'est parce que le différentiel de croissance est favorable aux États-Unis et que le consensus a beaucoup plus progressé aux États-Unis qu'en Europe. Mais la problématique est la même, il n'y a plus de retard à rattraper sur les actions européennes.
Merci d'avoir fait le point avec nous, François Chevalier. Rappelle, vous êtes donc stratégiste à la banque Leonardo.